Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le syndrome de Noonan et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Myriam Bouillot. Docteur Bouillot, bonjour.
Bonjour.
Docteur Bouillot, vous êtes pédiatre, spécialisé en endocrinologie pédiatrique au sein du service d'endocrinologie pédiatrique du CHU de Tours et vous êtes également pédiatre libéral installé à Tours. Alors, docteur Bouillot, ma première question s'adresse plus particulièrement à la pédiatre libérale. Quels sont les signes rencontrés chez ces jeunes patients en pédiatrie libérale qui doivent faire penser ou évoquer un syndrome de Noonan ?
Alors, il existe plusieurs portes d'entrée, je dirais, dans la maladie. D'abord, chez les plus jeunes, il faut savoir que la cardiopathie est un point important dans le syndrome de Noonan, puisque 70 à 80% des enfants vont avoir une cardiopathie. Donc, quand on a un enfant qui présente des signes cliniques évoquant une pathologie cardiaque, ça peut être un point d'entrée. L'autre chose, c'est la croissance, parce qu'on peut avoir des troubles de croissance importants, présents dès la naissance d'ailleurs, et qui vont s'aggraver. Et ces enfants vont être particulièrement maigres. Et avoir donc une petite taille et des particularités cliniques, morphologiques, en particulier sur le thorax et sur le visage. Un des éléments qui peut attirer l'attention dès le plus jeune âge, ce sont les problèmes nutritionnels. C'est-à-dire que ces enfants ont parfois des difficultés à manger, à avoir des apports caloriques corrects. Donc il va falloir enrichir l'alimentation et les surveiller. Mais il faut savoir que en grandissant, ils vont avoir toujours une tendance à être maigres, malgré des apports caloriques qui vont s'améliorer. Les troubles de l'apprentissage ne sont pas spécifiques au Noonan, mais on peut avoir des difficultés d'apprentissage dès le plus jeune âge autour du langage, des petits problèmes de socialisation également, et on peut avoir un retard intellectuel qui n'est pas constant, qui est en général assez modéré, mais qui peut toucher quand même 20% des enfants. Donc ça nécessitera donc une attention particulière et éventuellement une intervention pour que les enfants puissent bénéficier soit de structures particulières d'apprentissage, soit d'une aide qui peut être de l'orthophonie ou un intervenant, un accompagnant d'élèves en situation de handicap à l'école.
Alors, vous assurez la prise en charge d'un nombre assez important de patients au sein du service d'endocrinopédiatrie du CHU et vous suivez également quelques patients atteints d'un syndrome de Noonan au sein de votre patientèle en pédiatrie libérale. Comment se passe la coordination des soins pour ces patients ?
Alors, en fait, on a un rôle d'information auprès des familles, des différents risques qui peuvent survenir sur leurs enfants et donc on va faire des dépistages systématique, en particulier par la cardiopathie, qui peut être assez frustre. Donc, on va adresser des courriers à nos différents confrères. Donc, cardiopathie, ça peut être également l'orthopédiste, puisqu'il y a des troubles à type de scoliose, de malformation du thoracique, comme un pectus carinatum. Et puis, il peut y avoir d'autres anomalies, visuelles, auditives. Donc, il faudra les orienter vers les ORL, ophtalmologue, voilà, neurologique et hématologique éventuellement. Ce sont des patients qui peuvent avoir des troubles de la coagulation et ça peut être soit sur des facteurs de la coagulation, soit sur des anomalies plaquettaires. Voilà, donc notre rôle, c'est de coordonner tous les intervenants et les différents examens complémentaires à réaliser en fonction des observations, des constatations faites par les parents. Le syndrome de Noonan, il est suspecté cliniquement, comme je vous le disais, il est important quand même d'avoir le diagnostic. Il faut savoir que malheureusement, les anomalies génétiques ne se retrouvaient que dans 70% à 85% des cas, mais c'est toujours intéressant d'avoir l'intervention d'une équipe de généticiens qui va confirmer le diagnostic et qui va permettre aussi de réinterroger la famille parce que parfois, ça nous permet de découvrir un cas parmi les parents qui a une forme plutôt frustre et de faire donc une information dans ce sens.
Alors, docteur Bouillot, vous l'avez évoqué un tout petit peu dans votre première réponse, mais quelle est l'importance du suivi de la croissance chez ces jeunes patients ?
Alors ça, je dirais que c'est primordial. Hein. Le retard de croissance, il est quasiment constant chez les enfants qui ont un syndrome de Noonan. D'ailleurs, on dit souvent que le syndrome de Noonan est un peu le miroir du syndrome de Turner, sauf que le Noonan touche filles et garçons. Et donc, on a des retards de staturaux importants qui, si on ne fait rien, entraînent une taille cible de 1,45 m chez la fille environ et 1,55 m chez le garçon. Donc, ce sont des pathologies qui vont nécessiter de mettre en place une thérapeutique.
Et au-delà de la prise en charge médicale, proprement dite, de ces jeunes patients, docteur Bouillot, quel est le rôle du pédiatre dans l'accompagnement de leur prise en charge plus sociale cette fois ?
Alors, sur le plan social, il faut savoir que donc tous ces suivis, ces traitements vont entraîner des coûts, éventuellement également nécessiter d'absence pour les parents. Donc, on a un rôle donc, de faire un dossier déjà pour une prise en charge à 100% de cette pathologie. Et éventuellement, on peut être amené à faire un dossier MDPH de façon à ce que les parents puissent avoir une allocation d'éducation spécialisée, de façon à ce qu'on puisse mettre en place un accompagnant d'élèves en situation de handicap ou une aide financière pour les différents intervenants qui ne seraient pas pris en charge à 100% par le biais de la caisse d'assurance maladie.
Et pour conclure, docteur Bouillot, puisqu'on arrive déjà à la fin de notre entretien, lorsque ces jeunes patients grandissent, comment se passe la transition de leur prise en charge vers un suivi à l'âge adulte ?
Alors, l'idéal de la transition serait qu'on puisse avoir des correspondants qui connaissent bien cette pathologie chez l'adulte. Ce n'est pas toujours le cas partout. Je veux dire que ça reste une difficulté, un point à travailler. Bon, j'ai la chance d'avoir quand même des contacts étroits avec le service d'endocrinologie adulte, mais c'est vrai que les patients eux-mêmes n'ont pas forcément envie d'avoir un suivi à vie. Il peut y avoir des pertes une perte de suivi de ces patients. Et donc voilà, ce sont des points à travailler.
Eh bien, merci mille fois, docteur Bouillot, de nous avoir éclairé sur le syndrome de Noonan. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralécoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur le syndrome de Noonan. À très vite.